Cano quoi? Canopée, conversation avec Gilda Legrand. Salut à toi, bienvenue sur Leader dans l'enseignement catholique, le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton école, ton collège ou ton lycée. Prêt? Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Eh bien, bienvenue à tous sur Leader dans l'enseignement catholique. J'espère que tu vas bien. Je remercie celles et ceux qui ont rejoint la liste de diffusion de ma lettre mensuelle. Nous sommes déjà plus de 100. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Gilda Legrand, directeur des ateliers Canopée d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Gilda a un parcours professionnel remarquable, ayant fait la transition de l'enseignement catholique vers Canopée, l'opérateur du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ce passage lui a donné une perspective unique sur l'évolution de l'éducation, l'intégration des outils numériques dans l'enseignement, mais pas que, ainsi que le développement professionnel des enseignants. Alors aujourd'hui, nous allons explorer à la fois son parcours, et puis on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'est Canopée, et découvrir comment on peut, nous, en tant que chef d'établissement, collaborer efficacement avec Canopée. Eh bien, bonjour Gilda.
Bonjour François.
Eh bien, je t'entends très bien. Peux-tu nous dire tout simplement comment on devient Gilda Legrand?
Oh, c'est une grosse, grave question. Alors, je vais plutôt m'arrêter sur l'aspect professionnel de Gilda Legrand. L'aspect personnel, on verra sans doute sur une autre émission.
C'est noté.
Donc, professionnellement, j'ai eu un parcours où j'ai été d'abord dans l'enseignement privé catholique en tant qu'enseignant dans le premier degré. J'ai fait différentes classes, tout ça pendant à peu près 17 ou 18 ans. Et puis, j'ai toujours été intéressé par la transmission, que ce soit la transmission au niveau des élèves, des enfants, mais plus en plus, la transmission envers les adultes, la formation pour adultes m'intéressait. Donc, au fur et à mesure, j'ai eu l'occasion d'être tuteur, de professeur stagiaire et de me rapprocher de l'ISFEC, l'Institut de formation des enseignants du privé, et de pouvoir, grâce à ce rapprochement, intégrer en partie en tant que formateur l'ISFEC. Et ça m'a permis en même temps donc, de pouvoir reprendre une formation de master, master MEF, mais avec une particularité qui s'appelle IFUNO.
C'est
avec
la... joli nom.
Oui, j'arrive jamais à me rappeler ce que ça veut dire. Mais l'idée générale étant de se former pour être formateur à... Donc, formation continue, et là il y avait formation continue des adultes, et il y avait une spécificité sur le numérique et la formation à distance qui était très intéressante. Et chose originale, j'ai démarré ces études en 2019, juste avant, et j'ai fini en 2020 pendant l'année du Covid. Donc j'avoue que j'avais de quoi faire par rapport à mes études, c'était très intéressant. Donc voilà, et puis ensuite avec ce master, j'ai essayé de voir un petit peu quelles étaient les différentes opportunités. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir postuler dans le réseau Canopée. D'abord en tant qu'ingénieur de formation au niveau la direction nationale. Et puis j'ai eu l'opportunité ensuite de pouvoir accéder au poste de direction des deux ateliers, l'atelier 41 et l'atelier 37.
Merci. On salue l'ISFEC Saint-Martin et en particulier son directeur Jean-François Schouler. Et puis, donc en tant que Alors, tu nous as un petit peu expliqué comment tu avais fait cette transition, en particulier suite à des formations. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples un peu plus concrets sur la manière dont Canopé travaille avec les écoles, les collèges et les lycées, et s'il y a des liens particuliers avec l'enseignement catholique?
Alors, globalement, pour situer un petit peu ce qu'est Réseau Canopé depuis 2015, c'est un opérateur public sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère nous a clairement positionné depuis 2 ans sur la formation continue des enseignants. C'est donc un atelier par département, c'est un maillage national. Il y a une centaine d'ateliers au niveau national, en métropole et en outre-mer. Et chaque atelier a une équipe plus ou moins grande, mais ça reste raisonnable dans le sens où ce sont des équipes entre 4 et 7 formateurs à peu près, qu'on appelle chez nous des médiateurs ressources et services. Et donc ces personnes-là sont à mettre en place des formations à destination des enseignants, des établissements scolaires. Et puis après, on le verra sans doute aussi, mais plus ça va, plus on ouvre aussi aux collectivités locales. Bon, ça, sans doute, on y reviendra un petit peu après. Et donc, l'idée, c'est notre partenaire principal, et donc l'académie, effectivement, parce qu'il y a tout un pan de formation sur lequel on intervient sur le premier et second degré, à travers les plans de formation académique et l'école académique de formation continue. C'est une instance qui a 2 ans maintenant et qui met en place le plan de formation pour les enseignants de l'académie. Et ce plan de formation est ouvert aux enseignants du public, mais aussi de plus en plus aux enseignants du privé. Donc, il y a ce premier volet dans lequel les différents ateliers Canopé sont très impliqués. Mais on peut aussi travailler complètement en direct avec les établissements scolaires, soit sur les thématiques qui, pour nous, qu'on le met en avant. Peut-être les détailler un petit peu après. Et puis aussi en fonction des projets qui sont développés dans les établissements, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels nous, on peut intervenir pour les accompagner. Alors, il y a effectivement actuellement, il y a tout le dispositif du CNR, notre école Faisons-la ensemble, sur lequel on est très, très impliqué. On peut être force de formation par rapport à ça. Et puis, après, répondre justement de manière plus concrète à un projet particulier, voir quelle formation, quelles ressources, quel accompagnement on peut mettre en place. Donc, on est en lien beaucoup effectivement avec les chefs d'établissement par rapport à ça.
D'accord, donc fini le temps où on pouvait flâner dans les couloirs pour chercher des diapositives. Tout ça, ça a disparu. Et maintenant, on est donc plutôt à rechercher des formations ou des ressources en ligne, principalement, c'est ce que tu me
Oui,
disais.
alors effectivement, au niveau des ressources, Réseau Canopé reste encore, met encore à disposition des enseignants énormément de ressources. Alors, ce sont des ressources qui sont disponibles en ligne sur le site de Réseau Canopé. On peut trouver un certain nombre de ressources et c'est classé par grand thème. Il y a effectivement des pages spécifiques sur l'éducation aux médias, des pages spécifiques sur les valeurs de la République, etc. Et puis, donc, on continue aussi sur le site de Réseau Canopé à trouver un certain nombre d'ouvrages en vente. Et parce que Canopé est toujours éditeur d'un certain nombre d'ouvrages régulièrement, ouvrages en lien avec la pédagogie et des ouvrages qui sont aussi en lien avec les thématiques de formation que l'on développe. Et il y a aussi d'autres ressources qui sont disponibles sur Canotech, par exemple. Canotech est une plateforme importante de Réseau Canopé qui met à disposition énormément de ressources vidéo, que ce soit des paroles d'experts, que ce soit des webinaires, que ce soit des conférences enregistrées ou en direct. Il y a les deux. Et donc, il y a toute une recherche possible en fonction des différentes thématiques. Et Canotech est vraiment une grosse base de ressources par rapport à ça.
D'accord. Donc, formation, ressources, Mais c'est pas que pour les écoles. Les écoles au sens large. Tu parlais tout à l'heure que il y avait, tu t'adressais aussi maintenant à d'autres choses.
Oui, de manière générale, Réseau Canopé s'adresse à toute personne qui a un lien plus ou moins étroit avec le milieu éducatif. Donc c'est pour ça que maintenant on est aussi très en lien avec les collectivités locales, que ce soit spécifiquement les mairies ou les conseils départementaux, parce qu'ils ont aussi des personnels qui sont dans le milieu éducatif. Pour donner un exemple, là on va développer une formation sur différentes mairies dans le 37 auprès des ATSEM. Formation sur les compétences psychosociales et la gestion des enfants avec besoins particuliers pour développer un certain cadre et un certain bien-être auprès des personnels et dans le cadre de leur travail auprès des enfants.
D'accord, oui, du coup ça s'ouvre à d'autres personnes
Tout à fait.
que les enseignants. Ok.
Ouais. Après, c'est vrai que si des fois, quand on travaille avec les conseils départementaux, on a aussi comme cible les enseignants, mais on n'aborde pas forcément les mêmes thématiques. Là, il y a un gros projet autour des tablettes numériques avec le conseil départemental de Loir-et-Cher, où là, on intervient auprès des enseignants de collège pour une prise en main d'un outil numérique et l'utilisation pédagogique de cet outil numérique.
D'accord. Et alors, est-ce que tu vois des défis ou des tendances au niveau de la formation des enseignants? Est-ce qu'il y a des demandes particulières ou régulières ou,
Alors, ce qui se développe actuellement, il y a beaucoup de choses autour de ce qu'on appelle nous de la forme scolaire. La forme scolaire, ça peut être assez large, mais il y a un certain nombre de thématiques de formation qui sont autour de l'aménagement des espaces, que ce soit des espaces intérieurs ou des espaces extérieurs. C'est vrai qu'on parle beaucoup de classes flexibles ou encore à l'extérieur de renaturation des cours d'école, ou un mot que j'ai toujours du mal à prononcer, la débitumisation. Je l'ai dit.
c'est bien, c'est bien. Bravo.
Ouais. Et donc on a développé toute une expertise et toute une offre de formation autour de ces différentes thématiques qui permettent justement aux enseignants pour qui ça peut être c'est tout à fait concevable un peu compliqué de changer, de faire évoluer sa pédagogie et puis de passer à autre chose ou autrement, et donc les accompagner en leur donnant les outils, en leur donnant effectivement des bases théoriques et surtout en leur permettant de concevoir et de s'impliquer dans un nouveau lieu ou dans une nouvelle pédagogie.
Mais ça tombe bien parce qu'il va falloir qu'on discute de ça tout à l'heure.
Après, si c'est vrai que on parlait donc aménagement des espaces, formes scolaires, il y a beaucoup de demandes aussi sur des thèmes autour du bien-être. Je parlais des compétences psychosociales. Alors ça peut être des compétences psychosociales à développer auprès des élèves, parce que pour nous, le fait de faire des formations auprès des enseignants, la cible finale est toujours l'élève de toute façon, ou même dans le milieu, enfin avec d'autres personnes du milieu éducatif. L'idée, c'est vraiment de leur donner les meilleurs éléments et les meilleurs outils pour qu'ils puissent au final intervenir le mieux possible auprès des jeunes. Parce qu'on parlait de collectivité, mais c'est vrai qu'on travaille aussi avec des centres de loisirs. Enfin voilà, je fais des apartés, mais bon.
Non, non,
Voilà,
mais c'est bien.
au fur et à mesure,
Il y a du placement de produit là.
ça m'ouvre. Voilà. Et puis, donc, ouais, tout ce qui est bien-être à l'école, beaucoup de choses qui se développent aussi autour du développement durable.
Oui.
Donc,
Ah oui, tu vois, je pensais que c'était plutôt quelque chose qui avait tendance
Non,
à
non, non.
pousser. Non, non, ça reste
Au
encore
sein
en
de Réseau
tendance.
Canopé, il y a des groupes de travail très importants autour de ça et on propose un certain nombre de choses. Là, dernièrement, il y a eu une journée autour de la sobriété numérique, hein, par exemple, ou comment effectivement, on a développé différentes interventions pour accompagner les élèves sur la prise de conscience, ce que c'est que le numérique et l'utilisation à outrance ou non. raisons ou raisonner de ces outils-là. Donc voilà, tout ce qui est développement durable au sens large, on travaille aussi avec les éco-délégués, pourquoi pas, aussi en collège, en lycée. Voilà. Tout ce qui est éducation aux médias, à l'information, il y a aussi pas mal d'éléments par rapport à ça, parce que ça, ce sont des demandes fortes pour pouvoir outiller les enseignants et répondre aussi aux sollicitations, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un certain nombre d'élèves en phase 2 qui ont des outils numériques mais qui ne savent pas forcément comment s'en servir. Donc, et à travers ça, par exemple, il y a tout ce qui est cybersécurité. Là, on travaille énormément actuellement sur tout ce qui est intelligence artificielle, c'est en train d'arriver. En fait, Réseau Canopé, on essaye de sentir, entre guillemets, les tendances et de pouvoir s'y adapter. On est assez souple, on a beaucoup de personnes qui peuvent travailler au niveau national. L'idée de ce réseau, c'est de pouvoir faire bénéficier l'ensemble des personnes de la réflexion d'un petit groupe et de pouvoir disséminer et alimenter le réseau.
S'il y a le groupe du 41 qui est féru d'intelligence artificielle, ils en font profiter le canopé de...
Exactement. Okay. Ouais, tout à fait. Et même, ça marche même au niveau national. Il y a des groupes de travail nationaux qui, justement, alimentent aussi toutes les formations qui peuvent avoir lieu dans les différents territoires. Et ça, c'est vraiment une force et ça permet une réactivité intéressante et importante par rapport à ça. Et alors une dernière thématique qui aussi et qui est très développée dans le 41, parce que j'ai des spécialistes entre guillemets à l'atelier sur la ludopédagogie, c'est-à-dire que tout ce qui tourne autour des escape games par exemple, accompagner des enseignants ou une équipe éducative sur la création d'escape game, c'est-à-dire que pouvoir sur une ou deux journées leur dire voilà, les tenants, les aboutissants, le fonctionnement d'un escape game, c'est celui-ci, et à partir de l'idée qu'eux peuvent avoir à développer, on crée l'escape game, comment est-ce que les énigmes peuvent interagir avec les unes avec les autres pour arriver au résultat final, l'idée étant effectivement que ce sont des escape games pédagogiques, donc il y a un but d'apprentissage derrière, etc. Et donc ça, c'est aussi une tendance importante, la ludopédagogie qui se développe vraiment beaucoup.
Et ce que tu ne sais pas, c'est que pour sortir de cette salle où nous sommes, il faudra résoudre une énigme.
Pas de problème.
Bon, super, merci pour toutes ces informations. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Alors, moi, je dirais bien quelque chose de spécifique pour les chefs d'établissement. Oui. Parce qu'on a aussi des choses spécifiques. On propose aussi des formations sur ce qu'on appelle réunion innovante. Je ne sais pas si le mot innovante est forcément, à force de l'utiliser, il peut être un peu galvaudé. Mais l'idée étant de proposer aux chefs d'établissement de mener leur réunion pour arriver effectivement à ce qu'ils veulent en faire et pas être perdu dans une organisation qui pourrait être parfois compliquée ou qu'ils n'ont pas acquis. Hein, donc il existe des formations par rapport à ça sur comment dynamiser des réunions, comment les prendre en charge, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui rencontre aussi pas mal de succès, et avec aussi tout ce qui est gestion de projet par exemple, parce que de plus en plus les chefs d'établissement sont confrontés à ce type de fonctionnement. On parlait tout à l'heure du CNR et notre école Faisons-la Ensemble, spécifiquement la gestion d'un projet, on rentre complètement dedans. Donc ça, c'est des formations qui peuvent être proposées aux chefs d'établissement pour les aider dans leur rôle et dans leur fonctionnement de tous les jours.
Bon, et ça coûte combien tout ça?
Ben après, on parlait tout à l'heure effectivement de l'EAFC. Il y a un certain nombre de formations qui sont proposées tous les ans dans le cadre de l'EAFC et qui sont EAFC, École Académique de Formation Continue. Donc c'est ce qui a remplacé le PAF, hein, le Plan Académique de Formation. Donc c'est des inscriptions individuelles. Mais il y a ça. Après, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi, en fonction des établissements ou d'un groupement d'établissements, développer une formation spécifique par rapport à une demande et qui intègre ces différents éléments. C'est tout à fait...
T'es habile parce que tu n'as pas répondu à ma question.
Non.
Après, ça s'étudie au cas par cas.
Exactement, oui. Après, dans le cadre de l'AFC, c'est transparent pour les enseignants parce que c'est pris en charge par l'académie. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi, pour l'enseignement catholique, il y a des prises en charge par formiris qui existent. Donc là, c'est pareil, donc à voir ce qui est possible de faire. Mais je ne vais pas te sortir un catalogue avec telle formation, tel prix, ça va être rébarbatif.
Ça ne va pas être drôle. Très bien, donc on arrive à la fin de cet épisode. Je vais te poser quelques questions pour terminer. Alors, tu vas penser à un chef d'établissement qui t'a marqué en bien. Maintenant, un chef d'établissement qui t'a laissé un mauvais souvenir. Et tu vas répondre maintenant à cette question. Quelles sont les qualités et les défauts d'un chef d'établissement pour toi ?
Alors, pour moi, une des premières qualités d'un chef d'établissement par rapport à son équipe, c'est l'écoute. Je pense que c'est important d'être en capacité de savoir ce qui se passe dans son équipe, ce qui se passe de bien, ce qui se passe de mal, et de pouvoir justement réagir et intervenir s'il y a besoin. Mais je pense que l'écoute, pour moi, c'est assez fondamental. L'écoute et le dialogue. Parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire que les personnes de l'équipe soient assurées que le chef d'établissement a entendu, a compris et qui va apporter une réponse d'une manière ou d'une autre. À l'inverse, je dirais que ce qui, pour moi, est compliqué ou je trouve négatif, si on veut aller vraiment par là, c'est le chef d'établissement qui, alors je ne sais pas comment dénommer ça, mais va décider tout seul et diriger son équipe sans concertation. On retombe un peu à l'inverse de l'écoute, effectivement, mais ça me paraît vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que même si au final le chef d'établissement c'est lui qui a le pouvoir de décision et qui va décider lorsque il y a besoin de décider, il est important que son équipe soit impliquée dans ses choix. C'est comme ça que je conçois les choses. Et je suis à un petit niveau dans le sens où j'ai des équipes de 3 ou 4 personnes. Mais depuis qu'effectivement je fais la direction d'équipe, la gestion d'équipe, je trouve que ça fonctionne, au moins au niveau où j'en suis. Donc ça me paraît assez important. Et puis pour l'avoir vécu en tant qu'adjoint, enfin en tant qu'enseignant dans les établissements scolaires dans lesquels je suis passé, quand il n'y avait pas d'écoute, ça ne fonctionnait pas bien. On sentait tout de suite effectivement le chef d'établissement d'un côté, l'équipe de l'autre, et avec des tensions assez rapides. Et après, ça ne veut pas dire que... ce qui est important, c'est que chacun reste dans son rôle en même temps, mais qu'il y ait un dialogue constructif entre les deux.
Et d'ailleurs, en t'écoutant, je suis en train de me dire, mais j'ai été ton chef d'établissement à un moment donné, je crois bien.
Oui, mais je me suis dit, est-ce que je m'arrête à cet exemple-là et de quel côté je le place ? Mais je ne dirai rien.
Avant-dernière question, quel est le livre que tu conseillerais en ce moment ?
Le livre que je conseillerais ?
Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. C'est juste histoire d'avoir des idées de lecture. C'est toujours intéressant, je trouve.
Un des derniers livres, alors pas du tout dans le domaine professionnel, mais un des derniers livres qui m'a vraiment ému et qui m'a remué, c'est Le siècle de Ken Follett. Enfin, Le siècle, il y a 3 tomes, qui racontent tout le 20e siècle. J'en reviens toujours pas. Comment est-ce qu'il arrive à faire avancer ces personnages, les mettre dans les endroits historiques, et en même temps, il y a énormément de personnages, mais on ne se perd pas. Et puis, j'ai découvert d'autres bouquins de Ken Follett pour être un peu intéressé par l'histoire. Il y a d'autres un peu plus avant. Le siècle de Ken Follett. Après, il faut avoir un peu de temps, il y a plus de 3000 pages.
C'est ça. L'été ne suffit pas. Et où est-ce qu'on peut te trouver dans le monde de l'Internet ?
Me trouver dans le monde de l'Internet, c'est en tapant Atelier Canopée 41 ou Atelier Canopée 37. Il y a un endroit où il y a les contacts et il y a mon contact dessus. Après, je peux laisser une adresse mail, hein, c'est assez simple, c'est gilda.legrand@réseau-canopée.fr. Attention, canopée, c'est E à la fin.
Oui, oui.
Et pas
J'écris avec E et un accent.
Non, oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accent.
Pas sur l'adresse mail.
Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Je te remercie pour cette conversation. Et puis, je pense que tu as offert beaucoup de précieuses informations. Merci pour ton rôle aussi et ce lien que tu peux faire entre l'enseignement catholique et Canopée. Et eh bien, je te dis à une prochaine fois.
Merci François, puis j'espère effectivement avoir répondu à toutes tes interrogations.
Nous voici à la fin de cet épisode de Leader dans l'enseignement catholique. J'espère que les discussions et conseils partagés aujourd'hui t'ont été bénéfiques et t'inspireront dans ton quotidien. Assure-toi de t'abonner pour rester à jour avec tous nos futurs épisodes. Ton avis est essentiel pour l'évolution de ce podcast. Je t'invite donc à partager tes réflexions, tes questions ou même à proposer des thèmes que tu aimerais voir abordés lors de nos prochaines émissions. Tu peux exprimer tout cela en laissant un commentaire ou en me contactant directement. Si tu as trouvé de la valeur dans l'épisode du jour, partage-le avec d'autres chefs d'établissement et amis dans le domaine. Merci de m'avoir accordé de ton temps aujourd'hui. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission enrichissante de Leader dans l'enseignement catholique. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.